Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel épisode dans le viseur, encore avec Matt, ancien premier maître dans les commandos marines. Alors les auditeurs se souviendront peut-être que vous avez déjà raconté votre premier passage, votre première arrivée au Mali en 2013. Parmi les premières arrivées de Français au Mali d'ailleurs au tout début de l'opération Serval. Et là c'est encore une histoire du Mali, mais cette fois un peu plus tard, de 2018, et alors vous m'avez dit que c'est un jour où vous avez été blessé.
Oui, bonjour à tous, voilà, c'était en 2018, je crois que c'était en novembre 2018, où on devait aller capturer un chef djihadiste. On a été déclenché assez tôt dans la soirée, et on avait prévu de... C'était au sud de Tombouctou. On avait prévu de faire un assaut héliporté. C'est ce qu'on a fait.
Et c'est quoi les informations là ? C'est vous savez où il est ? Vous connaissez une zone un peu vague ? Enfin, où vous avez des renseignements hyper précis ? Enfin, est-ce que vous partez en vous disant qu'il faudra un peu improviser sur place ? Ou est-ce que vous savez exactement ce que vous faites ?
Alors, on a la chance, nous, en tant que force spéciale, c'est qu'on part sur des choses bien précises. Le renseignement, il peut venir d'une photo, il peut venir de quelqu'un qui est inséré. Il peut venir juste d'une erreur djihadiste, c'est-à-dire ils ont des téléphones et du coup on arrive à les choper grâce à ces téléphones-là. On peut être déclenché sur une voix. Il y a des interprètes qui peuvent reconnaître la voix d'un chef. Du coup, on peut être déclenché là-dessus. Et grâce à une triangulation, etc., on arrive à cibler et à localiser dans un bois ou dans une montagne l'ennemi, quoi. Et nous, on est déclenché à ce moment-là. Il est en plein milieu d'un bois qui fait la taille d'environ 4 terrains de foot. Voilà, on part. On monte dans l'hélico. On est deux groupes. Il y a plusieurs hélicos. Donc, on est deux groupes. Un groupe du CPA-10 et un groupe des marins, le nôtre.
Donc, le CPA-10, c'est le commando parachutiste de l'armée de l'air.
Exactement, oui. Et donc
c'est quoi ? C'est une dizaine de personnes par groupe ?
Voilà, exactement. Donc on arrive sur le terrain, on est environ entre 25-30, parce qu'il y a les deux groupes de combat. Plus derrière nous, on appelle ça une SELMO, c'est les têtes pensantes qui nous aident et qui nous supportent, qui nous demandent... en fait, c'est le relais entre les autorités qui restent plus loin, les avions, les hélicos, et nous, au sol. Donc voilà, les hélicos se posent, et tout de suite, quand la poussière... disparaît, on voit là, une désignation drone de notre objectif qui est en train de bouger. Tout de suite, on a la radio.
Donc, vous voulez dire que vous avez un truc numérique qui vous... Enfin, vous avez
c'est visuel. C'est visuel. On le voit dans nos JVN.
Avec vos jumelles de vision nocturne, vous voyez le laser qui part depuis le drone de très loin. Ah, voilà. Okay, c'est incroyable.
Donc, et nous, en fait, c'est ce qui nous permet d'aller beaucoup plus vite. On n'a pas la tête dans nos GPS. C'est grâce au drone qui, lui, est peut-être à 2000 mètres d'altitude. Et lui, il est capable de...
Ça doit être un truc étonnant. Vous devez voir une sorte de lumière qui descend du ciel.
C'est ça, on l'appelle... C'est souvent le nom qu'on lui donne. C'est le doigt de Dieu. Il est là et il nous indique notre objectif. Et c'est top pour nous. Et ça, on peut l'avoir dans toutes les façons d'arriver au sol, c'est-à-dire par la mer, par les airs, ça c'est quelque chose qui est hyper pratique pour nous.
Ok, donc là le truc bouge.
Voilà, le truc bouge, on s'aperçoit que les gars sont en train de se déplacer. Et puis on s'organise. On avait briefé comme ça. On est parti très rapidement. C'était que un groupe avançait, un groupe prenait l'appui, et ainsi de suite. C'est-à-dire que 10 mecs avançaient à gauche, nous on prenait l'appui, et ainsi de suite. Et en fait, il s'est avéré qu'on a vite avancé les 300 premiers mètres. Pourquoi ? Parce que c'était un glacis. Un glacis chez nous, c'est un terrain qui n'a pas de couvert, tout simplement. Et on voulait atteindre vraiment cette ligne d'arbre le plus rapidement possible et utiliser le bruit des hélicoptères qui étaient au-dessus pour couvrir notre avancée. C'est ce qu'on a fait.
Et en même temps, s'il y a des hélicos, ça veut dire qu'ils savent que vous arrivez. Mais
voilà.
Mais ils ne savent pas,
ils savent pas d'où. Ouais. Ils ne savent pas d'où. Et les hélicos le font super, super bien. C'est que... ils passent jamais au-dessus de nous, ils restent dans un secteur, ils font du bruit, mais pas trop. Le chef de groupe, Yo, à l'époque, il a un contact radio directement avec le pilote. Le pilote lui demande « Est-ce que je te gêne ou pas ?» Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et voilà, on arrive dans cette lisière où on s'aperçoit que le bois, il est quand même assez touffu. Et tous les arbres sont assez gênants. Pourquoi ? Parce qu'il faut vraiment se baisser à environ 1,20 m de haut pour avoir une vision, c'est un sous-bois, quoi. Le sol est propre, c'est du sable, mais il faut se baisser. Donc c'est assez galère avec notre équipement. Ouais.
Pourquoi ? Parce que les branches commencent...
Les branches commencent à 1,20 m, voilà. C'était assez particulier, mais c'était des buissons et des épineux, quoi.
Ouais.
Et,
donc faut s'accroupir, quoi.
Faut s'accroupir, faut marrer, parce qu'on a 30 kg sur le dos, on a l'arme à côté, le casque, les JVN, c'est assez galère, mais bon, on va dire que c'est notre métier, et puis... Nous, on suit cette lumière, quoi. Et au bout d'un moment, cette lumière ne bouge plus. Donc là, on se stoppe et on demande au gars du CPA10 d'avancer le plus possible sur la gauche pour essayer de faire un petit bouchon à gauche. Et là, on reçoit l'ordre, nous, d'aller sur l'objectif. Donc Johan nous dit, OK, on avance en ligne. C'est assez...
Et là, vous savez combien ils sont, hein ?
À ce moment-là, pas encore, parce que c'est assez loin et... Enfin, moi, réellement, je l'ai pas encore l'info.
Et donc, vous devez être prêt, c'est presque un avant-duel de western, quoi. C'est genre, on sait pas qui va y arriver et ce sera celui qui dégainera le premier.
Ouais, c'est... En fait, on est un peu en mode chasseur. On sait que vulgairement parlant, on sait que le gibier est là, donc on doit le débusquer. Il est dans ce bosquet, et ce bosquet, il est maintenant à 150 mètres de nous. Donc on a la radio qu'on doit vraiment essayer de les capturer. C'est vraiment ça. Dans un premier temps, on doit les capturer. Donc on avance mètre par mètre. Vraiment, les 150 derniers mètres, on met peut-être 30 minutes à les faire. On veut vraiment être le plus discret possible. Et moi, j'étais sur le côté gauche de cette ligne, entre le CPA10 et le reste du groupe. Donc à ma gauche, il y avait Benji, Mich et moi. Donc j'étais sur le secteur gauche, d'un coup je suis sur un boulevard. J'ai, on va dire, la chance d'être sur un boulevard, donc je peux me tenir debout et j'ai l'arbre.
Mais les arbres sont alignés.
Voilà, et d'un coup j'ai la chance d'être en forêt. Des fois ça arrive, j'ai l'objectif pile poil face à moi, il est environ à 80 mètres et je peux me tenir debout et le sol c'est du sable, je me sens super bien. Et je dis aux gars, les gars, vous me suivez, en fait. En fait, ils prennent le tempo sur moi. Et du coup, eux, les gars avancent un petit peu difficilement. Moi, je m'adapte à leur vitesse. On arrive à 40 mètres, où là, on se fige. Pourquoi ? Parce que ça bouge un petit peu. Et on essaye de... on ne veut pas se dévoiler, mais on essaye de voir ce qu'ils font. Est-ce qu'ils sont armés réellement ? Parce qu'on avait toujours un doute. Il y avait, parce que sous les sous-bois, il y a toujours une petite poussière qui s'installe. Et puis la poussière des hélicos vient se figer dans ce bois. Donc ça, c'est un peu galère pour nous. Donc au bout de quelques minutes, on décide de reprendre la progression. Et Johan nous dit, OK, n'hésitez pas à faire des tirs de sommation pour leur dire, OK, on est là, posez vos armes. En fait, moi, j'arrive à environ 30 mètres. Donc là, je les vois très bien. Il y en a deux debout près d'un arbre et il y en a, je les vois pas encore les autres, mais moi je vois deux gars debout près d'un arbre.
Et Ils sont armés ?
Je ne sais pas encore. Et en fait, en me décalant un petit peu sur la gauche pour essayer de, d'analyser cette silhouette quoi, dans la nuit avec ma JVN. Et en fait, là, à ce moment-là, je suis à peu près 25 mètres et je vois qu'il y a une calache. En fait, le mec, il a la calache, le canon vers le haut. Et je vois le chargeur qu'on reconnaît tous hein, se découper dans la nuit. Quoi. Ok, je me dis, ok, le gars de gauche, il est armé. Le gars de droite, je ne savais pas. Il était un petit peu caché par la largeur du tronc. Et là, je suis à 20 mètres et puis je décide de faire quand même un tir de sommation pour lui laisser la chance d'être surpris et de lâcher son arme. Et juste après mon tir de sommation à 1 mètre de lui sur la gauche, et ben voilà, je le vois, il se tourne vers moi et en fait, il a vu les éclats de mon tir. Et il me voit et en fait,
les éclats dans le sable.
Les éclats de, je pense, les éclats de les la éclairs, sortie de bouche. Ouais. La sortie de bouche de mon canon, parce que moi, à ce moment-là, j'ai un 417. C'est une arme qui est en 7,62. Tous les gars du groupe sont en 416, en 5,56. Et en fait, c'est
donc
une ça, arme...
Donc là, on parle des HK, donc les nouveaux fusils voilà. des militaires français.
Oui.
Et donc, vous êtes en 7,62, donc un calibre légèrement supérieur au 5,56 de vos camarades. Donc ça fait un peu plus de lumière quand ça part.
Ça fait un peu plus de bruit, un peu plus de lumière... je me souviens plus si j'avais mon réducteur de son, mais en tous les cas, je vois très bien qu'il y a une réaction. Et c'est une arme en fait qui permet de, qui a un fort pouvoir de pénétrant et impactant. C'est-à-dire que moi, je sais très bien que si j'utilise mon arme, ça va tout de suite faire but, et c'est le cas. Donc je fais but.
Donc, au moment où il se retourne, vous tirez, voilà. Et ça le touche. Et...
Donc je fais mon tir de sommation, lui il se retourne, il lève son arme. Du coup, pour moi, c'est un... J'ai lui laissé la chance, il a levé son arme, c'est trop tard pour lui, donc je fais mon tir et il tombe. Et là, au même moment, je m'aperçois que sous un tronc d'arme, il y a 5 mecs. Donc il y a le deuxième qui est debout, lui, il est traité par les gars, il est neutralisé par les gars de droite. Donc je le vois tomber lui aussi, et je vois les 5 mecs en fait qui sont planqués derrière un gros tronc d'arbre avec leur Kalachnikov un petit peu canon vers le haut.
Un tronc d'arbre qui était abattu, quoi.
Qui était devant eux, en fait, ouais. Comme un petit poste de combat. Et juste après cette image, moi, je reçois une balle au niveau du corps, en plein dans la plaque. Et du coup, c'est un choc énorme. C'est comme si vous preniez une masse et que je me faisais impacter par une masse, quoi, par un costaud qui me donne un coup de masse. Donc là, je suis projeté en arrière. Malgré le fait que je sois bien stable sur mes appuis, parce que le 417, c'est une arme assez puissante, et du coup, il faut être bien stable. Et malgré tout, je tombe, je fais quand même 90 kilos, donc c'est pas... Je fais un petit poids quand même, et je tombe au sol, et pendant cette seconde où je tombe, je me dis que c'est fini. Tout simplement.
Parce que vous avez l'impression que vous êtes pris une Twingo, mais vous n'avez pas de conscience que c'est dans la plaque, probablement.
Voilà, et j'ai vraiment mal. Sur le coup, ça impacte, ça c'est vraiment bizarre à décrire, mais c'est...
C'est la première fois que vous vous faisiez toucher par quelque chose.
Oui, ouais. C'était la première et la seule, d'ailleurs.
Wow.
Très bien. Et voilà, je me dis, c'est fini. C'est maintenant, quoi.
Vous ne dites pas, j'ai une plaque, il ne peut pas m'arriver grand-chose.
Vu la douleur et vu l'endroit, je me dis... parce que quand on tire, en fait, on est un petit peu décalé.
Donc les plaques, juste, on va rappeler que c'est ce qui rentre dans ce qu'on appelle parfois les gilets pare-balles, les frags, quoi. Et ouais, c'est des plaques en céramique qu'on glisse à l'intérieur. Et c'est pas le gilet en lui-même qui... C'est la plaque de céramique qui est glissée.
C'est des plaques qui font, on va dire, 35 cm de haut sur 25 cm de large. C'est pas gros, hein. Et on a tous la même, elle est pas adaptée par rapport au gabarit. Donc moi, je me suis dit...
Les petits sont plus protégés que les grands.
Oui. Malgré tout, oui. Ça fait plus de surface. Mais il porte plus lourd, du coup, proportionnellement. Et je me suis dit, je sens cet impact vraiment à gauche, au niveau du cœur, et je me suis dit, elle est rentrée, quoi. Et en fait, quand je tombe, je me suis dit, c'est fini, quoi. Et malgré tout, on a cette... je sais pas si c'est l'adrénaline ou quoi. J'ai eu ce calme qui s'installe, et se dire, ok, c'est maintenant, c'est fini, quoi. Et au moment où je touche le sol, comme si je me réveillais un petit peu... Et je vois l'ennemi, les cinq gars qui commencent à se mettre debout, pas debout, parce qu'ils n'ont pas eu le temps, mais à se mettre accroupis, à essayer de faire quelque chose. Et bah, du coup, bah, moi, je reste sur le côté, sur mon épaule droite, et je finis mon chargeur. J'essaye de réduire la menace. Et en fait, c'est les gars autour de moi qui m'ont, je pense, sauvé la vie à ce moment-là, hein, qui, eux, étaient bien mieux placés que moi et bien plus lucides pour le faire. Et tout de suite, en fait, à la fin de mon chargeur, j'essaie pas de le changer parce que, voilà, j'ai la tête en ébullition, je suis hyper stressé. Et je rencontre à la radio, ok, deux matchs, je suis touché. Et donc là, tout de suite, j'entends, ok, ne bouge pas, parce que ça tire à gauche, ça tire à droite. Il y a des gars, même, je pense qu'ils tirent au-dessus de moi, parce que les gars, ils sont en train de combattre, hein, ça dure, on va dire, ça dure 30 secondes, le combat, mais c'est très long. Quand on est à 20 mètres, et voilà, et d'un coup, j'entends la radio, ok Matt, tu peux te lever, tu pars à gauche. Donc là, je pars à gauche, je me mets derrière Mich me dit, ça va, et je lui dis, bah, je sais pas, et je me rends compte qu'en fait, que ça va, j'arrive à parler, mais en fait, c'est une brûlure énorme sur le téton gauche, qui me fait vraiment mal, hein. C'est vraiment comme si on mettait presque une poêle brûlante sur le pec.
Et c'est, enfin, je sais pas, vous touchez pour voir s'il y a du sang.
Ouais, j'essaie de, parce que j'ai des gants, donc on est dans la, il fait nuit noire, je m'interdis d'allumer une lumière pour regarder, parce que les mecs, je suis derrière Mich, donc Mich, il est en train de régler la situation le plus vite possible. Je m'interdis d'allumer ma lumière de casque, parce que c'est comme ça. J'enlève mes gants, j'essaie de toucher, mais je suis plein de sueur parce qu'on a marché. J'ai un doute. Et tout de suite, je dis, ok, j'ai besoin de l'infirmier. L'infirmier sur moi tout de suite. Donc Vivi, notre infirmier de groupe, on a la chance en CTLO d'avoir un infirmier de groupe qui est tout le temps là avec nous. Et il est là sur moi en une minute. Et du coup, on s'installe. Donc pendant ce temps-là, le groupe a fait 20 mètres en arrière. Et il y a une passe tigre pour vraiment confirmer que la menace est définitivement...
Une passe tigre, c'est un tigre dans un hélicoptère tigre qui était par là, qui vient...
Voilà, qui était là pour nous supporter, et qui lui a vu la scène. Il pouvait pas tirer au moment de l'action parce qu'on était vraiment trop proches, mais le fait de faire juste 5-10 mètres, je sais plus, ça lui a permis, et puis il a pris sur lui, et puis lui aussi il nous a sauvé la vie. Que voilà, il a fini le travail. Et moi, à ce moment-là, il y a Yo qui dit à Vivi, ok Vivi, allume ta lumière, dépêche-toi et check Matt. Et du coup, on s'aperçoit que la plaque, elle est explosée sur la gauche. En fait, tout l'impact de tout le choc est parti sur la gauche. Ça a éventré comme un sandwich sur le côté gauche. Parce que j'avais mal aussi sous l'aine. Donc en fait, sous les selles, pardon. C'est ça qui m'a fait mal, en fait, c'est la plaque qui a explosé. Voilà. Et puis, d'un coup, on entend Benji dire, ok, de Benji, je suis touché également. Donc Benji, il était juste à ma gauche, et lui, il est touché au niveau de l'avant-bras, donc au niveau du gras, là, de l'avant-bras, et en fait, la balle a ricoché sur son bras, ça lui a enlevé un petit bout de peau, mais lui, il a eu un pansement compressif, mais... Enfin, voilà, rien de grave. Et moi aussi, rien de grave, en fait. C'est juste
une brûlure.
La plaque a tout pris, elle a explosé. Mais moi, concrètement, j'étais en état de combattre 2 minutes après.
Sauf que vous n'étiez pas en état de combattre parce que...
Ouais, parce que un petit peu sous le choc. Mais 5-10 minutes après, voilà, on est resté pendant un petit moment, le temps que le CPA-10 s'organise, qui, lui, clarifie savoir s'il n'y avait pas d'ennemis qui étaient partis en arrière. Et ils ont clarifié sur l'arrière, donc du coup nous on a pu couvrir l'objectif au bout de 10 minutes, le temps que la poussière redescend, parce que quand un tigre fait sa passe, c'est des obus de 30 mm, donc ça fait énormément de poussière. On a attendu, et voilà, on est arrivé sur la zone de combat, sur les corps, et on a dû récupérer du renseignement sur les corps, etc. Donc,
c'est-à-dire quoi, récupérer du renseignement sur
les corps ? Combien ils étaient, l'armement qu'ils avaient, les explosifs qu'ils avaient sur eux, donc ils étaient vraiment, c'était vraiment une...
Ouais, la manière dont vous le dites, on comprend que ça devait pas être facile.
Ouais, c'était pas facile, parce que à ce moment-là, j'ai pas eu la honte de dire, ok les gars, après ce qui s'est passé, et en fait je suis arrivé sur les corps, y a très vite une odeur particulière. Et je me suis senti pas à ma place, pas à l'aise. Et,
c'est quoi, c'est l'odeur des projectiles du
voilà, c'est la poudre, l'odeur du sang. Parce que c'est sept corps qui ont, voilà, c'est sept corps qui ont été neutralisés par un tigre. Donc,
oui, y a, sous-entendu.
Il y a du dégât.
Ouais, c'est ça. Des corps qui se prennent des
obus, voilà. Il y a des corps qui sont coupés en deux. Il y a des. Moi, j'ai encore une image. C'est la tête, elle est complètement partie à 10 mètres d'un corps. Enfin, voilà, c'est assez particulier. Et à ce moment-là, je ne me suis pas senti capable. Et en fait, on a l'habitude chez nous de dire, OK, faut s'écouter avant tout, et faut être attentif à l'autre. Et on avait dit, OK, si les gars, vous n'êtes pas capable de faire du renseignement sur les corps, bah, vous le dites, et puis il n'y a eu aucun souci là-dessus, tout le monde a très bien compris, et il faut le faire, et vraiment, il ne faut pas
ça
hésiter
à
le
faire. Se polytraumatiser pour rien. Quoi.
Exactement. Ce jour-là, j'étais pas capable de le faire. Je me suis mis en appui, un appui qui a servi, parce que en fait, plus loin, on s'est rendu compte qu'il y avait un véhicule blanc qui se détachait. Du coup, on a trouvé des explosifs à l'intérieur, donc potentiellement quelqu'un. Donc voilà, j'étais plus efficace à prendre un appui plutôt que de regarder cette scène. Et je pense que le fait d'avoir été impacté par cette balle, ça a tout déclenché, quoi. Et voilà, ça, on a coiffé l'objectif, ça a duré une bonne heure, on a récupéré le renseignement, on a couvert les corps, on respecte les corps, on les a couverts et on est parti. Et je l'écris dans le bouquin, hein, c'est vraiment un travail mental pour pas être impacté sur ma vie future. C'est-à-dire que
par la scène ou par la balle?
Par les deux, par la soirée, je dirais. Et en fait, le retour en hélico a été pour moi un moment où on rigole avec les gars, etc., pendant 5 minutes.
Ah, vous arrivez à rigoler ?
Ouais, on arrive à rigoler de ça. Moi, je m'aperçois qu'en fait, j'ai un chargeur qui a explosé. Et en fait, la balle est rentrée dans mon chargeur. C'est peut-être ça qui m'a sauvé la vie. Je sais pas, parce que, en fait, sur le chargeur du gars qui m'a tiré dessus, en fait, c'était une balle ordinaire, une balle pénétrante, etc. Donc le mec il avait chargé.
Une balle pénétrante, ça peut pénétrer une plaque, quoi.
Bah ouais, ça peut, mais enfin je sais pas si j'ai eu la chance, mais normalement non. Normalement nos plaques par balle sont faites pour. Mais voilà, il peut se passer n'importe quoi dans la vie. Mais en fait on s'est rendu compte que le mec le terroriste avait grillé son chargeur méthodiquement, quoi. Une à une. Enfin, voilà, et on arrive, l'hélico arrive, et moi je monte dans l'hélico, je m'aperçois que mon chargeur il a explosé, je l'ai gardé en souvenir, la plaque d'ailleurs, et on a 45 minutes pour rentrer sur base, et pendant 45 minutes, moi je peux pas fermer les yeux, et je me dis, ce qui s'est passé, je me parle en fait, ce qui s'est passé là restera dans ce bois, tu n'as pas le droit de te laisser impacter pendant toute ta vie par cette action. Ce que j'ai fait, c'était bon. Ma réaction était bonne. Enfin voilà, pendant une demi-heure, je me prépare mentalement à oublier ce qui s'est passé et à garder que le positif, quoi. Et je pense que ça a marché parce que voilà, je touche du bois pour l'instant. Tout va bien pour moi c'est top, quoi. Grâce à une préparation et puis un petit exercice mental sur le retour, on peut arriver à passer au-dessus de ça et prendre que le positif.
Et quand vous avez ôté la plaque, il y avait quoi en dessous? Enfin, c'était...
Alors voilà, bah, la première réaction qu'on arrive à... On était où? On était à Gao. Arrive à Gao, bah voilà, j'enlève ma plaque, ça, on se rassemble autour de moi, et puis on essaie d'analyser ce qui se passe, et en fait, là... La balle est complètement désintégrée à l'intérieur. Et ça fait et derrière la plaque, ça fait un œuf.
Elle s'est déformée.
Elle s'est déformée. La taille d'un œuf. Et sur le côté gauche, elle a complètement explosé. Donc voilà.
Vous voulez dire dans l'axe de l'œuf, ça s'est désagrégé.
En fait, dans l'axe d'impact au niveau de ma peau, il y a eu comme un œuf, en fait. Et sur le côté gauche... En fait, ça a explosé. Voilà.
Donc l'énergie cinétique est partie du côté gauche.
Exactement,
et a dégommé la plaque. Et en dessous ?
Et en dessous, moi, j'ai eu un petit hématome et le téton complètement brûlé. Donc j'ai eu une... Enfin voilà, c'est rien du tout par rapport à ce qui aurait pu se passer. J'ai pas eu de côte cassée ni rien. Donc encore une fois, au retour de mission, j'ai été voir mes chefs, notamment l'amiral. Et l'amiral a voulu prendre ma plaque pour partir à Paris. Et il l'a prise d'ailleurs, il l'a mise dans une petite valise. Donc pour la petite anecdote, il est monté à Paris et il l'a mise sur la table en disant « Voilà pourquoi je demande tant de milliers d'euros pour équiper mes combattants. Pourquoi ? Parce que grâce à vos subventions, on achète du bon matériel et grâce à ça, ce commando-là est en vie aujourd'hui. » quoi. Et il l'a fait, on a bu plusieurs cafés avec lui dans le bureau, en toute sympathie, en toute
décontraction. Et vous l'a rendu après.
Et il me l'a rendu après, c'était sympa.
Et ensuite, pour l'après, est-ce que ça fait quelque chose de s'être déjà pris la balle ? C'est-à-dire, enfin, je sais pas combien vous avez fait de missions après, donc ça c'était 2018,
ouais.
Vous êtes parti il y a pas très longtemps, donc vous avez fait encore...
J'ai fait encore une mission au Mali, donc en 2020.
Mais est-ce qu'il y a une... Enfin, ou le contraire, ou est-ce que du coup on est plus nerveux parce qu'on sait qu'on n'est pas invulnérable et qu'on peut se faire toucher, ou au contraire, est-ce qu'on se rend compte qu'on peut se faire toucher et y survivre et que ce soit pas si grave dans les faits? Je veux dire, qu'est-ce que ça fait de se prendre sa première balle sur les actions ultérieures?
Ouais, c'est exactement ça. C'est, en fait, on se rend compte qu'on n'est pas invulnérable, mais grâce à nos procédures, on peut survivre à sept terroristes qui te tirent dessus à 20 mètres de toi. Quoi. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, je suis resté bien face à la menace. Je n'ai pas... On l'apprend depuis tout petit. Voilà, c'est l'arme qui vient droit devant toi. C'est pas toi qui vas chercher l'arme. En fait, tu donnes pas tes flancs, tout simplement. Et grâce à ça, grâce à cette procédure... Et moi, c'est quelque chose que maintenant, je martèle dans la tête des plus jeunes, on a une procédure pour tirer, ça doit être celle-ci. Quand vous savez que le moment arrive, parce qu'on le sent, vous devez reprendre votre position bien propre, au moins vous avez protégé vos organes vitaux, et grâce à ça, moi ça a marché, et ça a marché aussi avec Boubou en Afghanistan. Le jour où Jonathan est parti, lui aussi, il a fait face à l'ennemi en haut de cet escalier. Il en a pris trois dans la plaque.
Alors, je peux dire que c'est une histoire qui a déjà été racontée dans le podcast. C'était un partenariat avec l'école navale. C'était sur un assaut d'un compound en Afghanistan. Et c'est Jonathan Lefort. Les auditeurs se souviendront. Je mettrai probablement l'épisode aussi en lien. Merci beaucoup, Matt.
Merci à vous.
Je rappelle donc que vous l'avez dit, mais cette histoire et d'autres sont contenues dans le livre que vous avez publié aux éditions Pierre de Taillac, Objectif Force Spéciale. Merci beaucoup.
Merci.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.